Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert, ce matin, c'est un policier, Bruno Bartocchetti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire national PACA, secrétaire régional, pardon, PACA et Occitanie du syndicat police SGP Police FO. Évidemment, la visite d'Emmanuel Macron à Marseille nous fait réagir, nous interroge sur cette visite. Et puis, on parle évidemment beaucoup de Marseille. Et je voulais savoir si vous étiez, vous, un petit peu comme moi, c'est-à-dire agacé qu'on semble découvrir qu'il y a des checkpoints, qu'il y a des quartiers qui sont carrément mis sous coupe réglée, que ce reportage qui a été diffusé par Quotidien où on voit des barrières carrément, où des jeunes de 16, 15, 16 ans empêchent les gens de rentrer, décident de qui rentre ou qui ne rentre pas, ça fait quand même des années que ça dure, et d'un seul coup, on découvre cela.
Oui, effectivement, je partage votre regard sur cette situation, qu'elle n'existe pas d'aujourd'hui, et ça fait très longtemps que nous avons tiré le signal d'alarme. Bon, néanmoins, même si nous ne sommes pas naïfs, et la date du calendrier choisie par le président de la République n'est pas un hasard, bon, nous pouvons néanmoins saluer sa venue sur 3 jours à Marseille. Donc, il va s'attacher, espérons-le en tout cas, à aller au-delà des mots et des promesses. Il y a un budget qui est prévu, visiblement, pour l'éducation nationale, pour les transports, etc., etc. Bon, ceci, c'est une très, très bonne chose. On reste positif là-dessus. Mais on est un petit peu dans le doute, puisque ça fait très longtemps déjà, comme vous venez de le préciser, que nous attendons des moyens pour travailler. Et quand je dis « nous », comme vous l'avez compris également, la sécurité ne doit pas reposer seulement sur les épaules de la police nationale et de la justice. On doit donner du... Alors, moi, je ne suis pas un expert en matière de chômage, mais on sait que ce chômage-là est très élevé à Marseille. Donc, donnons de l'espoir à ces jeunes, ou moins jeunes, à Marseille pour s'exprimer. Il y a des qualités humaines importantes à Marseille. Ça ne se résume pas à la drogue et au football, Marseille. Et c'est fort dommage que l'on vienne annoncer une rénovation de quartiers, d'écoles et de transports et qu'on ne regarde pas comment on pourrait fonctionner avec les éducateurs sociaux, avec les éducateurs sportifs. Il faut impérativement, au-delà du travail de la police et de la justice, être présent dans ces cités pour pouvoir entourer ces jeunes, mais aussi ces familles qui sont perdues pour certaines, avec des gamins qui se lâchent dans la vente de drogue et de stupéfiants.
Mais c'est un discours qui est relativement modéré par rapport à ce qu'on a une réalité. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été mis dans ces quartiers. Il y a eu des plans, il y a eu de l'argent. J'entendais Samia Ghali ce matin qui disait il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce. Mais il y a de nombreux endroits en France où il n'y a plus de commerce, plus de médecins, sans pour autant que ça tombe sous la coupe réglée des caïds. Il y a un moment où aussi on se pose la question de la répression, tout simplement. Parce que dire, en mettant de l'argent en plus, ça peut régler les choses. Il y a des tas d'expériences qui ont été tentées de proposer des emplois, mais quand on vous propose 4-5 000 euros à 15 ans pour aller faire le guet, vous pouvez mettre toutes les écoles, toutes les éducations que vous voulez, je ne vois pas très bien ce que ça va changer.
Alors, si vous m'accordez un peu plus de temps, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir développer, parce que je ne dis pas que c'est une très bonne chose, je dis que c'est une piste intéressante déjà de s'intéresser à Marseille à ce niveau-là. Je dis qu'il faut aller plus loin, comme je vous l'ai dit, sur l'éducation des acteurs sociaux et sportifs. Au-delà, et vous faites bien de le souligner, pour aller plus loin, donnons les moyens, vous savez, au GIR, ce sont les groupes interministériels, de recherche, où on y trouve les impôts, les douanes, la police, la gendarmerie. Et là, on peut travailler justement dans le blanchiment d'argent, c'est-à-dire de pouvoir sanctionner, couper, vous savez, les vivres à ces dealers qui, avec le RSA, roulent avec des voitures de 150 000 euros. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Marseille n'est pas la seule ville concernée. À partir du moment où vous avez d'autres villes en zone sud, je les connais bien, qui sont lâchées par le service public, par le travail, par le plein emploi, eh bien on y retrouve la circulation de drogue et d'armes à feu. Donc c'est vrai qu'il faut aller au-delà. On parle de Marseille parce qu'il y a eu des règlements de compte.
Oui, il y a eu très violent quand même.
Voilà, c'est très violent, mais c'est vrai qu'on retrouve également cette même circulation de stupéfiants et de drogue à Toulouse, à Montpellier, à Béziers, à Nice et dans le Var. Donc c'est pour cette raison que, vous savez, tout ce qui est sécurité demande un travail sur dans tous les domaines. Alors là où on peut appuyer, bien sûr, c'est sur le travail de la police. La présence policière, elle est importante pour sécuriser la population, pour être présent dans tous ces quartiers. On va pas mettre un flic devant chaque entrée d'immeuble, mais il faut aussi donner les moyens chez nous aux officiers de police judiciaire pour pouvoir travailler sur des procédures, sur du long terme, pour pouvoir ficeler ces procédures, les présenter à la justice. Donnons les moyens à la justice de sanctionner. Ce n'est pas normal qu'un lieutenant d'un réseau de stupéfiants prenne 3 ans ou 4 ans, alors qu'un braqueur va prendre 15 ans. Donc, à un moment donné, quand il doit y avoir sanction, et c'est pas le seul remède en matière de stupéfiants, lorsqu'il doit y avoir sanction, c'est vrai que là, on doit être sans pitié. Vous savez, et attention, je suis prudent aussi parce que quand je parle de sanction, dans le milieu des stupéfiants, la peine de mort existe. Un jeune aujourd'hui n'a pas peur de mourir. On le voit, il sait qu'il prend le risque de se faire tuer. De toute façon, il est limité où il finit en prison, où il finit malheureusement criblé de balles avant 30 ans.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a des quartiers aujourd'hui où vous n'allez pas, où la police ne va pas ?
Alors, la seule institution qui rentre dans les quartiers, c'est la police. Maintenant, rentrer dans un quartier, la fleur au fusil, entre guillemets, ce n'est pas du boulot, c'est pas comme ça qu'on doit travailler, bien sûr. Maintenant, n'importe quel citoyen nous appelle au secours dans un quartier, nous allons rentrer dans ce quartier-là. Ce que l'on doit faire, bien sûr, c'est de ne pas passer pour des girouettes, c'est-à-dire rentrer dans un quartier et finalement avoir été repéré par des guetteurs 10 minutes avant notre arrivée. Donc c'est ça qu'il faut aussi trouver comme solution, c'est-à-dire on doit pénétrer dans ces quartiers, mais on doit y rester. Alors quand je dis y rester, c'est pas mettre un quart de CRS dans le quartier, c'est de pouvoir y rester et d'être en contact régulièrement avec cette population. Ça demande beaucoup de moyens en homme. Et quand je dis rester, c'est d'être en contact, pouvoir participer, j'insiste bien, participer à un lien social. Nous, notre domaine, c'est la répression, mais dans ce lien social, on doit être en contact avec des éducateurs, avec des présidents de quartier. Vous savez, une piste, est-ce que les présidents de quartier avec des éducateurs sportifs ne pourraient pas travailler même le soir dans ces quartiers? Ce serait intéressant pour encadrer, pour entourer des jeunes gamins de 10 ans qui finalement suivent leur grand frère dans la vente de stupéfiants. Donc oui, c'est difficile de rentrer dans ces quartiers, surtout pour les autres services publics, c'est difficile pour un facteur, c'est difficile pour un commercial. Voilà, pour nous, c'est un peu plus facile forcément, mais c'est souvent conflictuel, comme vous le savez.
Mais est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui pour retourner dans ces quartiers, faire du social? Est-ce qu'il n'y a pas une génération, en tout cas aujourd'hui, qui est perdue?
Malheureusement, je crains dans votre question que la réponse est criante de vérité. Vous savez, vous avez une génération aujourd'hui, quand un gamin de 15 ans est guetteur, il n'a connu que ce schéma de travail, c'est-à-dire de fonctionnement, la drogue, il y a tout à refaire et ça va prendre du temps. C'est pour cette raison que la venue de Macron, on peut la saluer, bien sûr. Maintenant, si c'est juste un effet d'annonce 6 mois avant les élections présidentielles, c'est largement insuffisant. Et c'est pour cette raison, dans ce que vous me posez comme question, elle est très importante, c'est de travailler sur du long terme. Si c'est pour lâcher les quartiers dans 10 mois en se disant « c'est bon, j'ai fait mon job, j'ai fait un chèque en blanc », c'est perdu d'avance. Il faut travailler dès à présent sur des jeunes et des familles, des jeunes très jeunes, 7-8 ans, et des familles qui ont besoin d'être soutenues. Il faut déjà éduquer certains parents pour pouvoir éduquer les plus jeunes. Et c'est du travail vraiment à long terme. Un combat très long qui ne finira jamais, c'est le travail de la police et de la justice contre les stupéfiants et les ventes de drogue. Et les ventes d'armes, pardon.
Ouais. On voit qu'il y a des victimes qui sont de plus en plus jeunes. Ça, c'est quelque chose de significatif.
Alors, très significatif, ça prouve surtout que notre société est bien malade. Hein, il y a de nombreux consommateurs, de plus en plus de consommateurs. On trouve la drogue à des prix de plus en plus intéressants. Donc, voilà, c'est beaucoup plus large. On emploie ces jeunes de 13-14 ans parce qu'on sait que sur un plan pénal, ils vont pas pouvoir être sanctionnés. On demande beaucoup de main-d'œuvre, on va dire, dans ces trafics d'armes et de stupéfiants. Et on va les chercher très jeunes parce qu'ils sont plus malléables. On en fait un petit peu ce qu'on veut. Et puis surtout, voilà, bon, on peut justement, ils sont très mobiles, on peut les envoyer dans d'autres quartiers pour vendre leur shit, et s'ils se font tuer, c'est pas bien grave, il y en aura d'autres pour les remplacer. Voilà l'état d'esprit aujourd'hui des lieutenants de réseau.
Ouais. La drogue, il n'y a pas moyen de contrôler, enfin c'est une question un peu naïve, hein, mais elle vient d'où cette drogue et ces arrivées de drogue massive, comment on peut gérer ça?
Alors, c'est vrai que sur un plan politique, hein, on a glissé depuis des décennies. D'abord, travailler, je vous ai donné une piste, c'était le GIR, hein, les groupes interministériaux de recherche. Quel est le travail international qu'il peut y avoir avec le Maroc, puisque c'est surtout le Maroc qui nous envoie du cannabis. La cocaïne vient d'ailleurs. Donc, il y a un travail international. Là où c'est malsain dans les annonces, c'est lorsqu'on parle de records, de saisies records. Plus on parlera de saisies records, plus... on comprendra que finalement, celui qui tente de passer la frontière, eh bien, il a une chance sur 100 d'être interpellé. De fait, il remplit son camion ou sa voiture avec un maximum de kilos de cannabis et de cocaïne. Donc, c'est tout un travail qui doit être fait déjà avant, effectivement, sur un plan international. Après, matière de stup, ben, ne soyons pas naïfs. Matière de stup, ça fait aussi vivre des familles. Complète, hein, lorsqu'on pose sur la table 50 euros une fois, deux fois, trois fois et que la famille est endettée, bien au bout d'un moment, elle accepte finalement que le gamin aille vendre et ferme les yeux. Ça, c'est un premier point. Donc, ça demande aussi un travail à ce niveau-là. Alors, je vais pas employer le terme, on achète la paix sociale, mais de fait, si demain, par magie, on arrêtait la vente des stupéfiants, et là, si vous permettez, j'aborde le sujet de la légalisation. Oui. Si on légalise le cannabis, par exemple, on prend un risque. On prend le risque de finalement retrouver ces dealers qui n'iront pas pointer à la NPE. Ils trafiqueront des drogues encore plus dures ou trouveront un shit encore moins cher et la contrebande continuera. Donc vraiment, il y a un travail qui est fait sur les consommateurs. Le consommateur aujourd'hui, on va le sanctionner s'il va acheter des stups. Bon, ben depuis 2-3 ans, de toute façon, ils ont anticipé ces consommateurs, puisqu'on a les Uber shit, et ce sont les dealers qui se déplacent pour aller vers le consommateur et qui, justement, gangrènent les territoires voisins, et c'est pour cette raison qu'on y trouve des règlements de compte. Donc, je suis peut-être lourd dans mes explications, mais tout est lié, voyez-vous. Voilà, tout est lié, il va falloir travailler sur du très long terme, mais n'oublions pas, et c'est pas du fatalisme de ma part, que les stupéfiants, la drogue, les armes à feu, continueront à circuler dans notre société, pas encore pendant des décennies. C'est pour cette raison qu'il faut y travailler dès maintenant pour trouver des résultats d'ici 2040, 2050. Espérons-le.
Merci beaucoup. Merci d'être intervenu ce matin, Bruno Bartocchetti, secrétaire régional PACA et Occitanie du syndicat de police SGP Police. Merci à vous. On va continuer à parler de Marseille, Merci. Évidemment, dans nos débats. À tout de suite sur Sud Radio.